Frédéric Mistral, Les fleurs de Gleix. Derrière le mas du juge, c'est l'endroit où je suis née. Il y avait le long du chemin un fossé qui menait son eau à notre vieux puits à roues. Cette eau n'était pas profonde, mais elle était claire et riante, et quand j'étais petit, je ne pouvais m'empêcher, surtout les jours d'été, d'aller jouer le long de sa rive. Le fossé du puits à roues. Ce fut le premier livre où j'appris, en m'amusant, l'histoire naturelle. Il y avait là des poissons, épinoches ou carpillons, qui passaient par bandes et que j'essayais de pêcher dans un sachet de canevas qui avait servi à mettre des clous et que je suspendais au bout d'un roseau. Il y avait des demoiselles vertes, bleues, noiraudes, que doucement, tout doucement, lorsqu'elles se posaient sur les tifas, je saisissais de mes petits doigts, quand elles ne s'échappaient pas, légères, silencieuses, en faisant frissonner le crêpe de leurs ailes. Il y avait des notonectes, espèces d'insectes bruns, avec le ventre blanc, qui sautillent sur l'eau, puis remuent leurs pattes à la façon des cordonniers qui tirent le lignol. Ensuite, des grenouilles qui sortaient de la mousse, une échine glauque, chamarrée d'or, et qui, en me voyant, lestement, faisaient leur plongeon. Des tritons, sortes de salamandres d'eau, qui farfouillaient dans la vase. Et de gros escargots qui rôdaient dans les flashs et qu'on nommait des manges anguilles. Ajoutez à cela un fouillis de plantes aquatiques, telles que ces massettes, cotonnées et allongées, qui sont les fleurs du typha, telles que le nénuphar qui étale, magnifique sur la nappe d'eau, ses larges feuilles rondes et son calice blanc, telles que le butum au trochet de fleurs roses et le pâle narcisse qui se mire dans le rue et la lentille d'eau aux feuilles minuscules et la langue de bœuf qui fleurit comme un lustre avec les yeux de l'enfant Jésus qui est le myosotis. Mais de tout ce monde-là, ce qui m'engageait le plus, c'était la fleur des Gleix. C'est une grande plante qui croît au bord des eaux par grosses touffes avec de longues feuilles cultriformes et de belles fleurs jaunes qui se dressent en l'air comme des hallebardes d'or. Il est à croire même que les fleurs de lys d'or, armes de France et de Provence, qui brillent sur le fond d'azur, n'étaient que des fleurs de Gleix. Fleur de lys vient de fleur d'iris, car le Gleix est un iris, et l'azur du blason représente bien l'eau où croît le Gleix. Toujours est-il qu'un jour d'été, quelque temps après la moisson, on foulait nos gerbes, et tous les gens du mas étaient dans l'air à travailler. Alentour des chevaux et des mulets, qui piétinaient, ardents, autour de leurs gardiens, il y avait bien 20 hommes qui, les bras retroussés, en cheminant au pas, 2 par 2, 4 par 4, retournaient les épis ou enlevaient la paille avec des fourches de bois. Ce joli travail se faisait gaiement, en dansant au soleil, pieds nus, sur le grain battu. Au haut de l'air, porté par les 3 jambes d'une chèvre rustique, formée de 3 perches, était suspendu le vanne. 2 ou 3 filles ou femmes jetaient avec des corbeilles dans le cerceau du crible le blé mêlé au bal. Et le maître, mon père, vigoureux et de haute taille, remuait le crible au vent en ramenant ensemble les mauvaises graines au-dessus. Et quand le vent faiblissait ou que, par intervalle, il cessait de souffler, mon père, avec le crible immobile dans ses mains, se retournait vers le vent et, sérieux, l'œil dans l'espace, comme s'il s'adressait à un dieu ami, il lui disait « Allons, souffle, souffle, mignon !» Et le mistral, ma foi, obéissant au patriarche, haletait de nouveau en emportant la poussière. Et le beau blé béni tombait en blonde averse sur le monceau conique qui, à vue d'œil, montait entre les jambes du vanneur. Le soir venu, ensuite, lorsqu'on avait amoncelé le grain avec la pelle, que les hommes poussiéreux allaient se laver au puits ou tirer de l'eau pour les bêtes, mon père, à grandes enjambées, mesurait le tas de blé et y traçait une croix avec le manche de la pelle en disant « Que Dieu te croisse !» Par une belle après-midi de cette saison d'air, je portais encore les jupes, j'avais à peine 4 ou 5 ans, après m'être bien roulé, comme font les enfants, sur la paille nouvelle, je m'acheminais donc seul vers le fossé du puits à roues. Depuis quelques jours, les belles fleurs de glé commençaient à s'épanouir, et les mains me démangeaient d'aller cueillir quelques-uns de ces beaux bouquets d'or. J'arrive au fossé. Doucement, je descends au bord de l'eau. J'envoie la main pour attraper les fleurs. Mais comme elles étaient trop éloignées, je me courbe, je m'allonge, et patatras dedans. Je tombe dans l'eau jusqu'au cou. Je crie. Ma mère accourt. Elle me tire de l'eau, me donne quelques claques et devant elle, trempée comme un caneton, me faisant filer vers le mas. Que je t'y vois encore, vaut rien, vers le fossé. J'allais cueillir des fleurs de glé. Oui, va, retourne-y cueillir tes glés et encore tes glés. Tu ne sais donc pas qu'il y a un serpent dans les herbes cachées, un gros serpent qui hume les oiseaux et les enfants. Vaut rien. Et elle me déshabilla, me quitta mes petits souliers, mes chaussettes, ma chemisette, et pour faire sécher ma robe trempée et ma chaussure, elle me chaussa mes sabots et me mit ma robe du dimanche en me disant « Au moins, fais attention de ne pas te salir !» Et me voilà dans l'air. Je fais sur la paille fraîche quelques jolies cabrioles. J'aperçois un papillon blanc qui voltige dans un chaume. Je cours après, avec mes cheveux blancs flottant au vent, hors de mon béguin. Et paf, me voilà encore vers le fossé du puits à roues. Oh, mes belles fleurs jaunes! Elles étaient toujours là, fières au milieu de l'eau, me faisant montre d'elles au point qu'il ne me fut plus possible d'y tenir. Je descends bien doucement sur le talus. Je place mes petons bien ras de l'eau. J'envoie la main, je m'allonge, je m'étire tant que je puis et patatras, je me fiche jusqu'au derrière dans la vase. Aïe, aïe, aïe! Autour de moi, pendant que je regardais les bulles gargouiller et qu'à travers les herbes, je croyais entrevoir le gros serpent, j'entendais crier dans l'air « Maîtresse, courez vite! Je crois que le petit est encore tombé à l'eau !» Ma mère accourt. Elle me saisit. Elle m'arrache tout noir de la boue puante. Et la première chose, troussant ma petite robe, « Vlan, vlan !» Elle m'applique une fessée retentissante. Y retourneras-tu, entêtée, aux fleurs de glé? Y retourneras-tu pour te noyer? Une robe toute neuve, que voilà perdue, fripe-tout, petit monstre qui me fera mourir de transe. Écrotée et pleurant, je m'en revins donc au mas, la tête basse, et de nouveau on me dévêtit, et on me mit, cette fois, ma robe des jours de fête. Oh, la galante robe! Je l'ai encore devant les yeux, avec ses raies de velours noir, pointillées d'or sur fond bleuâtre. Mais bref, quand j'eus ma belle robe de velours. Et maintenant, dis-je à ma mère, que vais-je faire? Va garder les gélines, me dit-elle, qu'elles n'aillent pas dans l'air. Et toi, tiens-toi à l'ombre. Plein de zèle, je vole vers les poules qui rôdaient par les chaumes, becquetant les épis que le râteau avait laissés. Tout en gardant, voici qu'une poulette huppée, n'est-ce pas drôle, se met à pourchasser, savez-vous quoi ? une sauterelle, de celles qui ont les ailes rouges et bleues. Et toutes deux, avec moi après, qui voulaient voir la sauterelle, de sauter à travers champs, si bien que nous arrivâmes au fossé du puits à roues. Et voilà encore les fleurs d'or qui se miraient dans le ruisseau et qui réveillaient mon envie, mais une envie passionnée, délirante, excessive, à me faire oublier mes deux plongeons dans le fossé. « Oh, mais cette fois, me dis-je, va, tu ne tomberas pas. » Et, descendant le talus, j'entortille à ma main un jonc qui croissait là, et me penchant sur l'eau avec prudence, j'essaye encore d'atteindre de l'autre main les fleurs de glé. Ah, malheur! Le jonc se casse et va te faire teindre. Au milieu du fossé, je plonge la tête première. Je me dresse comme je puis, je crie comme un perdu. Tous les gens de l'air accourent. C'est encore ce petit diable qui est tombé dans le fossé. Ta mère, cette fois, enragé polisson, va te fouailler d'importance. Eh bien non, dans le chemin, je la vis venir, pauvrette, tout en larmes et qui disait « Mon Dieu, je ne veux pas le frapper, car il aurait peut-être un accident. Mais ce gars, Sainte Vierge, n'est pas comme les autres. Il ne fait que courir pour ramasser des fleurs. Il perd tous ses jouets en allant dans les blés chercher des bouquets sauvages. Maintenant, pour comble, il va se jeter trois fois, depuis peut-être une heure, dans le fossé du puits à roues. Ah, tiens-toi, pauvre mère, morfonds-toi pour l'approprier. Qui lui en tiendrait des robes? Et bien heureuse encore, mon Dieu, je vous rends grâce, qu'il ne soit pas noyé. » Et ainsi, tous les deux, nous pleurions le long du fossé. Puis une fois dans le mas, m'ayant quitté mon vêtement, la sainte femme m'essuya, nue, de son tablier. Et de peur d'un effroi, m'ayant fait boire une cuillerée de vermifuge, elle me coucha dans ma berce, où, lassée de pleurer, au bout d'un peu, je m'endormis. Et savez-vous ce que je songeais? Pardi, mes fleurs de glé, dans un beau courant d'eau qui serpentait autour du mas, limpide, transparent, azuré comme les eaux de la fontaine de Vaucluse, je voyais de belles touffes, de grands et verts glaïeuls qui étalaient dans l'air une féerie de fleurs d'or. Des demoiselles d'eau venaient se poser sur elles avec leurs ailes de soie bleue, et moi, je nageais nue dans l'eau riante, et je cueillais à pleine main, à jointer, à brasser les fleurs de lys blondine. Plus j'en cueillais, plus il en surgissait. Tout à coup, j'entends une voix qui me crie « Frédéric !» Je m'éveille, et que vois-je? Une grosse poignée de fleurs de glé, couleur d'or, qui bondissait sur ma couchette. Lui-même, le patriarche, le maître, mon seigneur père, était allé cueillir les fleurs qui me faisaient envie. Et la maîtresse, ma mère belle, les avait mises sur mon lit. Fin du texte de Frédéric Mistral, Les fleurs de glé.